sur vivacité.be.
Bonjour maître Bruno Geissels.
Bonjour monsieur Lay.
Alors vous êtes spécialiste du droit du divorce.
Je le pratique tout au moins quotidiennement.
Donc vous le pratiquez quotidiennement. Dites, visiblement, et après avoir réalisé un petit coup de sonde chez les auditeurs de Vivacité, ils sont plutôt pour les pensions alimentaires, à ne pas confondre, Eddie de Wild, avec
les contributions alimentaires, évidemment, pour
les enfants. Dites-moi, en général, ça se passe plutôt bien entre parents, puisque... on l'a dit tout à l'heure, trois divorces sur quatre mariages. Donc, j'imagine que vous devez être confronté à pas mal de boulot par jour. Est-ce que c'est souvent tendu entre les parents? Au niveau de la pension alimentaire, hein, j'entends.
Oui,
pour le
bien
reste,
sûr. Mais ceux qui viennent nous voir, évidemment, c'est souvent tendu, parce que sans quoi ils ne consultent pas d'avocat.
Ils sont directement dans le. Oui.
Entre eux, je crois que, tant que vous êtes dans les chiffres, il me semble que, tout au moins avant la réforme du divorce qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, il y avait une proportion de 3 divorces sur 4 qui se déroulaient par consentement mutuel. Et donc, dans cette proportion-là, il y avait beaucoup de ces divorces qui se déroulaient sans intervention d'avocat.
Mmh. Alors, est-ce que... Eddie Louis, il a peut-être une question à vous poser.
Maître, peut-être pour être précis et concret très rapidement, qui, en fait, a droit à une pension alimentaire?
Eh bien, donc, pension alimentaire, comme vous l'avez précisé, c'est effectivement la question uniquement entre époux,
oui.
Par opposition donc aux contributions
bien
alimentaires
sûr.
Pour les enfants, comme vous l'avez dit. Celui qui a droit, c'est le conjoint qui est dans une situation économique plus faible que l'autre et qui ne lui permet pas d'assumer son état de besoin.
Oui, donc il y a bien une notion de besoin, en réalité.
Il y a absolument une notion de besoin, évidemment.
Et donc, pas d'automaticité.
Il n'y a aucune automaticité. Mmh. Il y a besoin d'un état de besoin. Le tout, c'est de savoir, évidemment, ce que l'on entend par là. Je crois qu'il est important de préciser que depuis cette réforme du divorce, on ne tient plus compte, comme c'était le cas précédemment, de la vie commune, du standing, si je puis dire, qui avait été adopté par les époux durant la vie commune. C'est vraiment l'état de besoin qu'il a remplacé, et je dirais que c'est un peu une compensation par rapport au fait que maintenant, il ne faut plus démontrer la faute de son conjoint pour obtenir la pension alimentaire, donc c'est plus facile de l'obtenir, mais ça veut dire aussi que le montant qu'on va obtenir risque d'être moindre que précédemment.
Oui, montant que l'on peut calculer comment, si tant est qu'on puisse faire une généralité?
C'est justement au cas par cas.
Oui.
Ça va dépendre principalement des revenus et des charges de chaque partie, en sachant aussi qu'aujourd'hui, les magistrats, sur base de la nouvelle législation, vont être plus exigeants à l'égard du conjoint qui invoque son état de besoin pour voir s'il n'en est pas responsable.
Mmh.
On va donc effectivement, les magistrats vont vérifier qu'il n'y a pas l'entretien, si je puis dire, de cet état de besoin, mais que la personne qui revendique une pension alimentaire met tout en œuvre pour obtenir d'autres revenus que cela.
À propos simplement des montants, on voit généralement dans les journaux des montants absolument sensationnels lorsqu'il y a des divorces entre stars. Rien de tout cela chez nous.
Non, ça se compte habituellement plutôt en centaines d'euros par mois, voire en milliers d'euros, mais c'est vraiment lorsqu'il y a des revenus exceptionnels.
Mmh. Autre modification importante, depuis 2007, la pension alimentaire entre ex-conjoints n'est plus à vie. Elle est limitée dans le temps dorénavant.
Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Le législateur a voulu réduire le montant puisqu'elle est devenue, si je puis dire, plus facile à acquérir puisqu'il n'y a plus à démontrer de faute, mais en même temps, il estime que le conjoint qui veut en bénéficier doit tout faire pour avoir d'autres revenus, et en la limitant dans le temps à une durée de principe de la durée du mariage, effectivement, il incite le conjoint à trouver d'autres revenus. Il y avait, me semble-t-il, également une idée d'équité, à savoir quelqu'un qui aurait eu un mariage de courte durée et qui pourrait, comme c'était le cas précédemment, bénéficier d'une pension alimentaire à vie, si je puis dire. Ce n'est effectivement plus le cas, sauf circonstances particulières.
Maître, est-ce qu'il y a une contribution alimentaire pour les enfants lorsqu'il n'y a pas eu mariage?
Oui, bien sûr, la question relative aux enfants est indépendante du mariage, puisqu'on est parent, que l'on soit marié ou qu'on ne le soit pas. La question de la contribution alimentaire se pose dès qu'il y a des enfants, indépendamment du fait que les parents aient été ou non mariés entre eux.
Et donc par décision judiciaire, alors?
Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil que je donne toujours, parce que, surtout quand les enfants sont en bas âge, même si on peut, à l'heure de la séparation, se mettre d'accord, il arrive que dans les années qui suivent, il y a des accords qui surgissent, parce que, justement, il y a un remariage, une situation qui change, et alors on va vers des disputes souvent interminables. Donc c'est parfois bien, dès le départ, de pouvoir mettre un cadre judiciaire qui n'est pas nécessairement agressif, qui peut avoir, justement, pour mission de stabiliser les choses, les encadrer.
Alors, deux petites questions par SMS. Est-ce que les pensions alimentaires peuvent être payées en chèque repas, nous demande Jean-Luc de Binche.
Ah, je n'ai jamais eu cette question-là. Je ne l'imagine pas. Effectivement, la législation du paiement ne me semble pas comprendre les chèques repas.
C'est assez étonnant. Est-ce que les pensions alimentaires peuvent être payées tous les 3 mois ou tous les 6 mois et d'une manière irrégulière? Est-ce que c'est autorisé, ça?
Non, alors de nouveau, attention à ce qu'on dit en ce qui
pas pension alimentaire, contribution alimentaire.
Voilà, contribution alimentaire. Ouais. Non, elles le sont parfois par la force des choses si l'un des deux ne paye pas régulièrement, mais le paiement est effectivement en principe mensualisé, même si, comme vous l'avez précisé antérieurement, il y a un principe d'une contribution alimentaire annuelle, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'elle est divisée par 12, on doit quand même payer pendant les vacances. Hein. Moi, ce que je pense pouvoir dire à votre question qui peut paraître anecdotique, à propos des chèques repas, c'est qu'on se rend compte très souvent, effectivement, que le parent qui doit payer pour les enfants à son ex-conjoint est très susceptible quant à savoir si cet argent revient effectivement aux enfants. Hein.
Ouais,
quelque chose qu'on retrouve effectivement, mais qui est aussi très difficile à surveiller.
Hein. Bon, et donc, en cas de non-paiement ou de régulier, rapidement, que faire ?
Alors, il y a deux possibilités, je dirais même trois. La première, c'est de s'en ouvrir auprès d'un avocat, voire d'un huissier, pour mettre à exécution le jugement, si jugement il y a.
Ouais.
L'autre possibilité, ce serait, mais ça dépend un peu des circonstances, de déposer une plainte pour ce qu'on appelle un abandon de famille et essayer de faire pression par la voie pénale contre la personne qui ne payerait pas. Et la troisième possibilité, ce serait de s'adresser au fonds des créances alimentaires pour obtenir effectivement le paiement auprès de ce fonds qui lui-même alors va se retourner ensuite contre le débiteur d'aliments.
Merci.
Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.